Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Nous sommes le 22 novembre, c'est Clotilde Seille en votre compagnie au micro de Canal M pour vous présenter les paractualités du jour. Avec en titre, le centre Filou, plus de répit à plus de familles. Et puis, c'est quoi une vie de malentendante? Également, aujourd'hui, deux résidentes font une courageuse sortie publique contre la détérioration des services au CHSLD de Mont-Tremblant. À titre posthume, Rosemary Cavana reçoit un prix de l'INCa et Toulouse en France est une ville accessible modèle. Également aujourd'hui, nous aurons droit à de la littérature, notamment ce livre qui s'appelle « Comment j'ai vaincu mon handicap » écrit par le docteur Ladji Siaka Doumbia. Et nous parlerons d'une personne qui est peut-être petite par la taille, mais qui est un grand, grand arbitre de hockey. Alors, le centre Filou d'abord, plus de répit à plus de familles. Philippe, 16 ans, le fils de Diane Chenevert, ne marche pas et ne parle pas. Mais il lui inspire la voie à suivre pour développer les services du centre de répit Filou pour enfants polyhandicapés qu'elle a fondé en 2005 avec son conjoint Sylvain Brosseau. L'organisme vient ainsi d'investir 2,5 millions de dollars dans l'achat d'un immeuble afin d'accueillir plus d'enfants dans ses programmes de stimulation et de réadaptation et étendre le répit aux jeunes de 15 à 21 ans. On a des listes d'attente pour tous nos services, souligne Madame Chenevert, directrice générale. Pour aider plus de familles, on a même dû augmenter l'intervalle entre les répits. Le centre Filou, qui a 10 employés à temps plein et 21 à temps partiel, occupe chaque centimètre de son triplex de la rue Jean-Briand à Montréal, devenu trop étroit au fil des années. En 2005, il a offert 300 répits. En 2015, 2450. Mais c'est loin de suffire. C'est le seul centre de répit au Québec pour les enfants atteints d'un handicap combinant des limitations physiques et intellectuelles graves, indique Madame Chenevert. Avec son déménagement en février prochain, il passera de 7 à 20 lits avec une possibilité de 26 et il doublera son nombre de répits à environ 4000 nuitées. Et en plus d'accroître les services, la directrice générale veut faire de l'organisme un centre d'excellence en matière de polyhandicap chez les enfants. Et il faut signaler aussi que le centre Filou procédera à une vingtaine d'embauches et il faut savoir que son budget annuel de fonctionnement sera de 1,8 ou 2 millions de dollars par rapport à 1,1 aujourd'hui. Et c'est une somme qui proviendra essentiellement de la philanthropie car l'organisme tire seulement 6% de ses revenus du gouvernement. Cette année, on n'a reçu que 76 000 dollars de Québec, déplore Mme Chenevert. Pourtant, comme société, on a une responsabilité collective envers les enfants lourdement handicapés et leurs familles. Je trouve qu'on en met beaucoup sur les épaules des philanthropes. Les CLSC et les centres publics de réadaptation nous envoient plein d'enfants, mais l'argent ne suit pas. Et c'est honteux. Un autre papier, c'est quoi une vie de malentendante? Eh bien, c'est d'essayer de se trouver une job, puisqu'il nous propose une entrevue par Skype et qu'on ne sait pas trop quoi leur dire. Dans mon cas, explique une femme malentendante qui s'appelle Anaïs, elle nous dit « Pour avoir déjà été refusée dans 3 organismes gouvernementaux en relation d'aide à cause de ma surdité, on dirait que je ne sais plus trop si je dois parler de ma surdité ou non. » Alors, dans ce cas, je peux utiliser divers stratagèmes pour tromper l'ennemi, comme par exemple, et c'est tiré d'une histoire vraie, dire que j'ai un accent juste à cause du fait que ma grand-mère est française, ou encore dire que je viens d'une autre région du Québec. Oui, oui, c'est un accent du bas du fleuve, voyons. Bref, je suppose que je vais tenter ma chance avec Skype, mais bonne chance pour lire les lèvres avec le décalage. La vie d'une malentendante, c'est de se mettre sur Tinder, why not, d'avoir des matchs et de n'avoir aucune idée à quel moment je suis supposée dire à la personne que j'ai une surdité. Ou bien sinon, je l'écris dans ma petite définition sous mes photos. « Bonjour, je m'appelle Anaïs et je suis sourde. Si tu aimes beaucoup répéter que tu articules particulièrement bien et que tu es le genre à constamment parler fort, écris-moi, ce sera le match parfait. » Et puis être malentendante, c'est aussi faire du yoga et de carrément n'avoir aucune idée de ce que la professeure raconte lorsqu'elle te dit de fermer les yeux à la fin pendant la période de méditation. Ça a l'air bien intéressant ce qu'elle dit, mais moi je vais juste dormir. Et puis, c'est d'avoir un meilleur ami pour qui sa blague la plus drôle et de te regarder en souriant et en faisant le son S pendant de longues minutes, juste parce qu'il sait que tu ne l'entends pas. Mais ça ne me dérange pas parce que moi, je suis capable de comprendre les gens dans les bars. Et pas lui. Vive la lecture labiale. Il est toujours plaisant de s'adresser à quelqu'un qui, ma foi, travaille beaucoup, œuvre beaucoup pour la communauté des handicapés et qui, du coup, eh bien, se voit remettre des prix, comme par exemple cette jeune femme, Catherine Blanchette-Dallaire, récipiendaire du prix du public Ville Intelligente pour le développement du module Sésame, ouvre-toi, dont elle va nous parler maintenant. Catherine Blanchette-Dallaire, bonjour.
Bonjour.
Et bravo.
Merci.
Ben écoutez, c'est... ben oui, pourquoi ça vous fait rire que je vous dise bravo? C'est quand même génial d'avoir remporté ça, c'est que vous n'étiez pas seule en lice. Hein? Il y a eu 96 projets différents.
Oui, tout à fait.
Et c'est vous qui l'avez eu?
Ben en fait, oui, on avait trois catégories différentes.
C'est ça.
Donc il y avait 96 dans trois catégories, mais effectivement, le public nous a choisi dans notre catégorie.
Eh bien, alors, vous allez nous parler un petit peu de ce... Bon. Déjà remarqué, avant de nous parler de Sésame, ouvre-toi, je voudrais que vous nous parliez de onroule.org parce que vous en êtes la fondatrice. Voulez-vous nous dire ce qu'est onroule.org, ce qu'est ce site?
En fait, onroule, je l'ai développé après m'être retrouvée moi-même 4 mois en fauteuil roulant en 2012 après un accident. Et
oui.
Ma plus grosse problématique à moi, c'était que mon monde venait de changer et donc j'avais aucune idée de où je pouvais aller, qu'est-ce que je pouvais faire, c'était quoi mes ressources. Donc, j'ai conçu un peu un rôle dans cette optique-là, de diffuser l'information sur ce qui est de disponible actuellement. Donc, on roule, en fait, on a un répertoire des commerces et des lieux publics qui sont accessibles.
Oui.
Et en fait, on fait un état des lieux. Donc, on dit, voici ce qu'il y a sur place. Et après ça, on laisse libre choix à la personne de déterminer si ça convient ou pas à ses besoins à elle.
Et ça n'existait pas?
En fait, quand on a commencé, il y avait des petites initiatives locales, mais la façon dont on l'a conçu, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et on touche pas nécessairement au commerce, mais on touche au logement également, aux ressources.
Oui.
Donc, nous, ça, on est les seuls vraiment à couper aussi large.
Là. Vous ratissez large comme ça.
Oui.
Justement, ça me permet de faire un lien avec une nouvelle que j'ai lue assez récemment. J'imagine que ça se fait ailleurs, mais à Paris, là, ils ont sorti un guide... Paris accessible.
OK.
Avec toutes les salles de spectacle qui le sont, tous les restaurants, les bars, les musées. Je me dis, ce serait une drôlement belle idée de faire ça à Montréal.
Oui, effectivement. Mais surtout avec le 375e.
Ben oui. Ben oui. Ben
nous,
oui.
Nous, on va avoir notre application mobile. On a commencé à la concevoir. Donc, elle va être disponible au printemps. Donc, ça va permettre aux touristes à mobilité réduite qui débarquent à Montréal de pouvoir visiter la ville sous un angle de l'accessibilité
via
notre application mobile.
Alors, déjà, bravo pour ça. Hein? Alors, maintenant, double bravo avec ce module qui est en développement pour le moment et qui s'appelle Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est que durant mon 4 mois encore là, il m'est arrivé plusieurs choses. Entre autres, je suis arrivée à un moment donné à une caisse et je devais rentrer ma carte guichet à gauche et ouvrir la porte à droite. C'est comme un peu impossible quand on est en fauteuil. Et quand on arrive à d'autres portes avec système d'ouverture, bouton de pressoir, mais souvent le bouton il est trop loin ou il est brisé ou il est trop proche. Bref, c'est un peu impossible de penser pouvoir mettre un bouton qui est à la bonne hauteur et au bon endroit pour tout le monde. Donc, moi, en fait, je me suis questionnée à savoir comment qu'on pouvait simplifier le processus pour que la personne n'ait pas à peser un bouton, mais que ce soit plutôt la porte qui détecte la personne.
Ah oui.
Donc, à ce moment-là, on est arrivé avec le concept de puce. Donc, la personne met soit la puce sur son fauteuil roulant ou en avant du pouce-pouce. C'est une puce qui est complètement inoffensive. Là. Elle est inerte, en fait, totalement. Et quand la personne ou la famille ou peu importe arrive près de la porte détecte la puce et s'ouvre automatiquement, donc laissant la personne rentrer là, en tout temps et simplement.
C'est génial.
C'est effectivement très bien.
non, mais vraiment, écoutez, Catherine, ça va aider tellement de gens. Bon, alors, les prochaines étapes de son développement à cette puce, en plus, Sésame, ouvre-toi, vraiment, Sésame, là, je trouve ça fantastique comme idée. Est-ce que c'est vous qui l'avez eu d'ailleurs?
En fait,
Non.
l'idée, c'est moi, je travaille dans un espace de travail collaboratif. Donc, j'ai pitché la question sur un dîner, puis on était vite autour de la table, on a réfléchi, puis on est arrivé avec cette histoire-là,
Ah,
avec ce nom-là.
c'est... En tout cas, bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, les prochaines étapes, Catherine.
Actuellement, c'est parce que là, on a un prototype qui fonctionne, mais on veut le rendre commercialisable,
Oui, bien
et
sûr.
on veut faire aussi une vigie pour voir qu'est-ce qui existe d'autre que cette technologie-là pour vraiment arriver avec le meilleur qui soit. On a déjà des partenaires qui sont prêts à implanter la solution dans des résidences pour aînés et autres. Donc, on se donne 3 mois de recherche et développement et dès ce printemps, là, on veut le diffuser et l'implanter au Québec, là.
Et vous me dites au printemps, hein, c'est ça? D'accord. Donc, on pourrait en profiter quoi, dès avril, mai à peu près. Et
Mon but,
puis.
c'est de qu'il soit disponible dès avril.
Et on pourrait le trouver où à ce moment-là, ce petit module-là?
En fait, pour l'utilisateur, ça serait simplement de se procurer la puce qui va être disponible par Internet.
Ah, par Internet.
Et
OK.
pour tout ce qui est commerçants, institutions qui veulent se procurer en fait le détecteur à puce, ça va être aussi disponible par Internet. Donc, les gens à travers le Québec vont pouvoir simplement le commander en ligne, le faire livrer, puis c'est très simple à installer. On ne veut pas que ce soit compliqué.
D'accord. Alors, ça va être un genre sésame, point quelque chose ou.
En fait, il y a beaucoup de noms de domaine qui étaient pris avec Sésame. Alors, ça va
C'est
être
vrai?
sésame.world parce
Ah,
qu'on ouvre un nouveau monde pour les gens.
Bravo, Catherine,
Un monde
vraiment.
sans barrière.
Et puis, une petite question un peu plus personnelle. Vous allez mieux?
Oui, pour les chevilles.
Oui.
Je ne peux plus courir.
OK.
Ça, c'est terminé. Et le froid est très, très, très dommageable. Donc, ça fait déjà un mois que j'ai mes grosses bottes d'hiver de scout avec de la laine. Là. Mais sinon, je suis revenue quand même à un niveau où je peux fonctionner quotidiennement, mais je dois faire attention. Là, j'ai une bonne faiblesse quand même.
Bon, ben écoutez, alors attention à vous, attention à vos chevilles. Catherine Blanchette Dallaire, puis c'est fou comment finalement un accident comme celui qui vous est arrivé, ben il a peut-être mené à ce sésame-là. Et... Non, mais écoutez, je suis vraiment navrée pour vous, pour cet accident, mais bravo pour ce qui est arrivé après, quoi, je veux dire, pour les retombées, si j'ose dire.
Ben merci.
Allez,
On
Catherine.
fait notre petit bout de chemin.
Eh bien, bravo à vous encore une fois. Donc, Catherine Blanchette Dallaire, qui a reçu le prix du public Ville intelligente pour le développement du module Sésame. Évidemment, on vous réinvitera hein, au printemps, dès que le module sera disponible et que la puce aussi sera disponible. D'accord?
Oui, avec plaisir.
Alors, merci à vous et passez une très, très belle journée.
Merci vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Par actualité régionale, deux résidentes font une courageuse sortie publique contre la détérioration des services au CHSLD de Mont-Tremblant. Voici la lettre ouverte écrite par Marianne Lacasse au sujet de la situation au CHSLD de Mont-Tremblant. Ça fait longtemps que je me retiens, mais là, j'ai le goût d'ouvrir mon cœur. Les travailleurs donnent beaucoup, même s'ils sont retenus pour faire du temps supplémentaire, ils font de leur mieux. Mais c'est fini, j'ai le goût de dire les vraies affaires. Ça devient inquiétant pour nous avec tout ce qui se passe présentement. Heureusement qu'il y a encore des personnes de cœur. Malgré les heures supplémentaires, ils font leur travail de leur mieux, même si elles sont épuisées. C'est pas rare d'attendre 1 heure pour des soins. C'est pas de leur faute. Il y a beaucoup de découragement. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait de l'épuisement professionnel. C'est inacceptable. C'est beau d'être tolérant, mais ça n'a plus de sens. Les résidents n'ont pas choisi d'être dans un CHSLD. Les familles sont de plus en plus inquiètes. Ceux qui décident de couper le personnel devraient faire leur travail pendant seulement 1 semaine. Ils verraient comment c'est dur de tout faire en fin de compte. Ce sont les résidents qui payent pour. Où est-ce que ça va arrêter? Attendez-vous qu'il arrive un accident fâcheux? Vous allez nous dire que vous êtes désolé. C'est maintenant qu'il faut agir, avant que ça arrive. PS, il y a de moins en moins de relèves. Les jeunes ne veulent pas travailler dans de telles conditions. Donc, pour donner le goût d'apprendre et de travailler auprès des résidents, il faut que ça change. C'est signé Marianne Lacasse, résidente du CHSLD de Mont-Tremblant. Selon le CISSS, le CISSS, où il y en a que 3, pas 4, des Laurentides, pas de détérioration de la qualité des services. Il n'y a pas de détérioration de la qualité des services au CHSLD de Mont-Tremblant, soutient le CIS des Laurentides. Au contraire, le centre d'hébergement de Mont-Tremblant est cité par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour ses bonnes pratiques, desquelles s'inspirait d'ailleurs, affirme l'agente d'information Myriam Sabourin. Le MSSS, pour ministère de la Santé et des Services sociaux, s'est rendu récemment à Mont-Tremblant afin de documenter les bonnes pratiques qui y ont cours et les exporter dans d'autres centres d'hébergement même, précise Mme Sabourin. Cette dernière confirme néanmoins la situation difficile rencontrée cet été au CHSLD de Mont-Tremblant. Les vacances, de même que les congés non liés à des cas d'épuisement, a-t-on précisé, a exigé beaucoup du personnel en place. Le CIS a immédiatement réagi à la situation en mettant en place plusieurs mesures, dont le recours à du personnel d'autres établissements. En aucun cas, les résidents n'ont souffert de la situation, assure-t-on, même si les bains ont pu être devancés ou repoussés dans certains cas. Le bain a toujours fini par être donné, soutient-on. Depuis le mois de septembre, la situation est revenue à la normale, indique l'agente d'information du CIS. À la suite de la situation qui a prévalu durant l'été, l'organisme a effectué un exercice d'analyse pour faire en sorte d'éviter une répétition dans l'avenir. Et c'est une histoire vraie. Une femme privée de son quadriporteur pendant 12 mois. Pourquoi ? Coupable d'avoir conduit son fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur avec les capacités affaiblies, une femme de 69 ans d'Amos ne pourra plus l'utiliser pour les 12 prochains mois. Carmel Tanguay a plaidé coupable à une accusation d'avoir conduit avec les capacités affaiblies le 14 novembre au palais de justice d'Amos. La sexagénaire avait été interceptée par les policiers alors qu'elle circulait au milieu de la chaussée le 12 mai dernier. Ils ont alors constaté qu'elle était intoxiquée par l'alcool. Il s'agissait pour elle d'une première infraction de cette nature. Le juge Marc Ouimette de la Cour du Québec l'a condamnée à une amende de 1 000 $. Comme le prévoit la loi, il lui sera de plus interdit de conduire tout véhicule moteur au Canada pendant 1 an, ce qui inclut son quadriporteur. Il nous manque malheureusement parfois, souvent même du temps, pour pouvoir parler de littérature ou de sport. Tiens, alors un livre ici, « Comment j'ai vécu mon handicap », un livre du docteur Ladji Siaka Doumbia qui retrace le combat des handicapés à s'insérer dans la société. « Comment j'ai vaincu mon handicap » est le titre de ce livre. Et ce docteur est un déficient auditif qui est parvenu à décrocher des diplômes universitaires malgré son handicap. L'ouvrage, édité par les éditions La Sahélienne Group, grâce au soutien de Mme Keïta Aminata Maïga, a été présenté au public le samedi 29 octobre 2016 dans l'enceinte de l'École des déficients auditifs de Bamako. C'était en présence de la première dame, Mme Keïta Aminata Maïga, du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Amadoune Konaté, et du docteur Ladji Siaka Doumbia, et devant un parterre d'écrivains et d'élèves de l'établissement. Ce livre a vu le jour grâce au soutien multiforme de la première dame du Mali. Sans elle, il resterait à l'état embryonnaire et peut-être n'aurait pas été édité. Le livre relate les difficultés, les tracasseries et les détresses que j'ai vécues et que tant d'handicapés continuent de vivre dans leur quotidien pour se faire une place sous le soleil. Je leur dis que Dieu ne créa personne pour la défaite, donc je les invite à continuer la lutte jusqu'à la victoire. C'est par ces mots teintés de mélancolie que le docteur Ladji Siaka Doumbia a entamé ses propos. L'auteur de « Comment j'ai vécu mon handicap » a expliqué que c'est à cause de la méningite qu'il a perdu l'usage de ses oreilles, mais que son handicap ne l'a point empêché d'apporter sa pierre en la construction de son pays, et cela dans plusieurs domaines. Il a signalé que le livre est un patchwork des difficultés rencontrées durant ses études et que beaucoup d'handicapés continuent d'essuyer dans leur quotidien. Le président des éditions La Sahélienne Group, Ismaïla Samba Traoré, a salué le combat de l'auteur qui, par ce livre, fera une entrée fracassante dans le cercle des auteurs engagés pour la cause des personnes handicapées. Comment j'ai vaincu mon handicap célèbre la détermination et la persévérance qui devraient pour longtemps inciter toute personne du genre à s'armer de courage et de ténacité, a affirmé la première dame, Madame Keïta Aminata Maïga. L'humoriste Mathieu Gratton travaille présentement sur un projet de web-série portant sur l'autisme. Lui-même père d'un adolescent autiste, il cherche à montrer le plus de nuances possibles de cette maladie, tant avec l'aide de jeunes atteints de ce trouble que de spécialistes en la matière. Une première capsule mettant en vedette son fils a été mise en ligne il y a quelques semaines. Elle a récolté plus de 110 000 clics en 5 jours. Les autres épisodes devraient être, s'ils ne le sont déjà, accessibles au cours de l'année prochaine. Et puis, parlons un petit peu de sport avec cet arbitre, un arbitre de petite taille mais de grand talent. Roland Proulx est arbitre à Gatineau depuis 7 ans. Celui que l'on surnomme Rolly est atteint de nanisme. Il y a quelques années, lorsque Roland Proulx a commencé à arbitrer du hockey mineur dans la quarantaine, ils étaient nombreux à tenter de le décourager. Ce n'était pas son âge ni les inconvénients du métier d'officiel qui les inquiétaient, mais plutôt sa grandeur. Roland Proulx est un arbitre de petite taille. Kim Vallière nous raconte qu'on lui disait toujours « Tu as toutes les qualités, mais à cause de ta grandeur, tu ne pourras pas continuer au hockey », se rappelle celui qu'on surnomme, je vous le rappelle, Rolly. Il a choisi de persévérer pour vivre sa passion pour le hockey, mais aussi pour faire taire les critiques. Roland porte le chandail rayé depuis maintenant 7 ans. Il l'enfile 3 ou 4 fois par semaine pour des parties de hockey mineur. Il est aussi en fonction pour des matchs de hockey adulte, et il dit « J'aime l'adrénaline que ça donne, entendre les gens crier, ça me passionne. Arbitrer, ça ne paraît pas, mais c'est un défi à chaque fois parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre », explique celui qui joue également au hockey régulièrement. Il rassure M. Proulx qu'il n'a jamais été victime d'attaques personnelles dans les arénas, un endroit souvent aride pour les arbitres. Il semble que les joueurs, les entraîneurs et les spectateurs n'osent pas s'attaquer à son handicap pour critiquer son travail. C'est peut-être arrivé une fois qu'un entraîneur me dise « tu ne pouvais pas le voir parce que tu n'étais pas assez grand », mais rien de plus mal que ça, mentionne-t-il. Roland, qui arbitre aussi au baseball, pendant l'été, sait que sa différence attire l'attention et qu'il est davantage observé que ses collègues, ce qui le motive d'ailleurs à se concentrer pour éviter les erreurs. Par actualité canadienne nationale, donc, l'INCA qui décerne le prix commémoratif du docteur Dayton M. Foreman 2016 à Rosemary Cavanaugh. Ça s'est passé le 21 octobre dernier. L'INCA a remis le prix commémoratif 2016 à Rosemary Cavanaugh à titre posthume pour le dévouement et l'acharnement dont elle a fait preuve au fil des ans pour s'assurer que les personnes aveugles ou ayant une vision partielle aient accès à des services de bibliothèque équitables. Le prix, créé par le conseil d'administration de la bibliothèque d'INCA en 1996, souligne un travail exceptionnel en matière de croissance des services de bibliothèque et d'information offerts aux personnes vivantes avec une perte de vision ou incapables de lire les imprimés. J'ai rencontré Rosemary lorsqu'elle s'est jointe à l'équipe de la direction d'INCA à titre de directrice générale de la bibliothèque en 1991, racontait Jim Sanders, ancien président et chef de la direction d'INCA. J'ai été le témoin de la transformation presque immédiate des services offerts par la bibliothèque d'INCA. Rosemary a été l'initiatrice de la conversion analogique numérique des services de production et de distribution des ouvrages en médias substituts. Et je tire encore aujourd'hui personnellement avantage d'un accès sans précédent à l'information, ce qui a été pendant si longtemps refusé aux personnes qui, comme moi, sont incapables de lire les imprimés. Rosemary entrevoyait constamment de nouvelles façons d'offrir des services aux abonnés de la bibliothèque d'INCA et de façon plus générale aux personnes vivantes avec une déficience perceptuelle. Fine stratège, elle était enthousiasmée par la participation des organismes sans but lucratif à l'évolution de la société et plus particulièrement en ce qui concerne les personnes vivantes avec une perte de vue. Le comité sénatorial propose 29 recommandations. Oubliez ça. Et bravo à Madame Rosemary Cavanaugh. La députée de Nigel Belt et porte-parole de l'opposition en matière de santé et de soins de longue durée, France Gélinas, a déposé mercredi à Queen's Park un projet de loi privé qui vise à proclamer le premier mardi d'avril de chaque année le jour des aidants naturels en Ontario. Elle veut ainsi souligner les efforts de ces personnes qui travaillent dans l'ombre. « Je me rends compte qu'une journée en leur honneur, ça ne changera pas le monde, mais ça va quand même nous donner l'occasion d'en parler et de leur donner une voix. » France Gélinas, porte-parole du NPD provincial en matière de santé et de soins de longue durée. Cette journée permettra de discuter des façons d'améliorer la situation des proches aidants. « Par actualité internationale, à Toulouse, dessine-moi le nom des stations du métro pour accroître l'accessibilité du métro toulousain. Le syndicat mixte des transports en commun, Tisséo, va doter chacune des stations de visuels d'identification. L'objectif est de permettre aux malvoyants et aux personnes ayant un handicap mental ou cognitif d'identifier et de mémoriser les étapes d'un déplacement. Ce travail a été mené avec les élèves du lycée Arène, spécialisé dans les arts graphiques. Une barque pour la station de métro Canal du Midi, un avion à la station Mermoz et un écureuil pour celle d'Esquirol, le nom occitan de ce petit rongeur. Ces trois visuels ont été imaginés par des étudiants en arts graphiques du lycée Arène pour le compte du syndicat mixte des transports en commun, Tisséo. Cette démarche est le fruit d'une collaboration entre différents acteurs locaux réunis au sein d'un comité de suivi technique et d'un comité scientifique portant un regard croisé. Ces visuels seront déployés en 2017 dans les stations de métro. Il faut noter aussi qu'à Toulouse, 60% des arrêts de bus sont accessibles. Parallèlement, Tisséo poursuit la mise en accessibilité du réseau urbain dans le cadre de la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances. Aujourd'hui, donc, 60% des arrêts de bus sont accessibles et 80% le seront en 2018, ce qui représente un investissement de presque 20 millions d'euros. Par ailleurs, 20 millions d'euros, c'est à peu près 30 millions de dollars. Par ailleurs, la totalité du matériel roulant est accessible. Cela concerne 116 rames de métro, 28 rames de tramway et 578 de bus. Comme quoi, c'est faisable. C'est la grande semaine des tout-petits. Alors, on peut écrire, c'est une lettre, la lettre des grands à chacun des tout-petits. À l'occasion de la première édition de la grande semaine des tout-petits, la GSTP, plusieurs partenaires se sont réunis pour susciter un dialogue autour du bien-être et du développement des tout-petits, mettre en valeur les acteurs qui s'impliquent auprès d'eux et faire connaître des initiatives porteuses qui leur sont destinées. La lettre des grands à chacun des tout-petits est une déclaration commune, un appel à l'engagement de l'ensemble de la société afin que tous les enfants aient les mêmes chances de développer leur plein potentiel. Parmi les signataires, mentionnons Ghislain Picard de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Pierre Fortin, économiste et chroniqueur au magazine L'Actualité, des personnalités publiques, des représentants syndicaux, patronaux et municipaux, des acteurs de la société civile comme l'Institut du Québec et Force Jeunesse, ainsi que l'ensemble des partenaires de la GSTP. Ça dure jusqu'au 26 novembre, donc c'est 7 semaines. Allez donc sur le site grandesemaines.com/tout-petit. Et enfin, apprendre à vivre avec une personne atteinte de l'Alzheimer et de mieux comprendre la maladie, tel est l'objectif de cette conférence organisée par la Coop de solidarité Santé Valmorin. C'est aujourd'hui même à 19h30 à la salle communautaire de la mairie de Valmorin, au deuxième étage, une conférence de 2 heures animée par Cynthia Dupont-Moniz, une intervenante formée par la société Alzheimer des Laurentides. Voilà ce qui conclut les paractualités du jour. Merci à mon équipe et merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous demain matin à 11h30.